Il y a le côté positif, c'est s'il pleut bien en hiver, on remplit, on arrive à faire la boucle. Par contre, s'il pleut peu en hiver et qu'on a un printemps plutôt sec, là, ça devient vite catastrophique.
La mer à boire. La série sur la précarité d'accès à l'eau dans les îles bretonnes, réalisée par les étudiants et étudiantes en journalisme de l'IUT de Lannion. Épisode 4, Belle-Île, l'eau à l'épreuve du tourisme.
Il est à peine midi et on vient d'arriver sur Belle-Île-en-Mer, la plus grande île de Bretagne, qui est située dans le Morbihan, juste en face de Quiberon. Quand on débarque, on arrive sur la commune de Palais, qui est la ville principale de l'île, et qui ressemble à un petit port, comme on peut en trouver un peu partout sur la côte. Et avec nous, il n'y a qu'une vingtaine de personnes qui descendent du bateau. C'est normal, car la saison touristique, elle vient de commencer. Tous les ans, c'est plus de 400 000 touristes qui viennent passer un moment sur cette île de 5000 habitants. Ces visiteurs représentent la manne financière principale de l'île, mais aussi son plus grand risque, parce que ses capacités en eau, elles sont limitées. Thomas Chiron est l'auteur d'une thèse sur l'accès à l'eau dans les îles bretonnes.
La construction du dernier barrage à Belle-Île, c'était aussi dans cette perspective de développement, parce qu'on est dans les années 80. Le barrage de Borflot, le dernier, c'est suite à la crise de 89.
Cette année-là, une sécheresse touche toute la France et l'île a dû être ravitaillée en eau potable par bateau.
Il est construit en 92, je crois, 92-93. Et donc là, on est bien pour pallier à l'évolution de la consommation, notamment l'appel de consommation estivale, avec une résidentialisation, enfin une secondarisation des résidences sur l'île. Parce que derrière, le modèle économique, il est aussi calé là-dessus, en fait. Il est calé sur une fréquentation et une population qui vient consommer, louer au restaurant, consommer du loisir, etc. sur l'île. Et qui fait marcher aussi derrière l'artisanat, etc., etc. Donc le modèle, il est construit aussi là-dessus. C'est le tourisme qui fait vivre les îles aujourd'hui. Pas que, hein, mais quand même. Alors c'est pas forcément le modèle qui est soutenu par tout le monde. Mais malgré tout, que ce soit les pêcheurs côtiers qui viennent vendre leurs poissons à Ouessant, à Groix, à Belle-Île, ou le producteur de légumes quelque part, une grande partie de leurs clients, c'est bien le touriste. Alors qu'ils soient d'origine insulaire, résident secondaire, ou qu'ils soient parisiens ou allemands, ou que sais-je.
Ici, la seule source d'eau potable, c'est la pluie. Pourtant, l'île a une des pluviométries parmi les plus faibles de Bretagne, avec un peu plus de 600 mm d'eau par an, la moitié de ce que reçoit Brest chaque année. Belle-Île-en-Mer est donc alimentée par trois barrages qui stockent une grande partie de cette eau de pluie tombée sur l'île. Après la Seconde Guerre mondiale, les barrages de Bordia, Entoureau et Borflot ont été construits les uns après les autres en prévision de la montée des besoins en eau potable. Mais l'été, quand la pluie se raréfie et que les touristes viennent en nombre, les réserves sont pourtant sous pression. Comme tous les touristes, une fois sortis du bateau, on se dirige directement vers le loueur de vélo pour pouvoir se déplacer sur l'île. On arrive devant le Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement, le CPIE. C'est ici qu'on rencontre Céline Marie, chargée de projet et éducatrice à l'environnement.
Bonjour.
Salut le bateau.
Après vous.
Merci. S'il n'y a pas de touristes à Belle-Île, qu'est-ce qui nous reste comme activité? Le bâtiment, l'agriculture, quand même, on a près de 40 exploitations. Il y a 4 collectivités, donc il y a tout autant d'agents territoriaux. Il y a un hôpital qui embauche près de 60 personnes. Une grosse communauté de communes qui embauche près de 60 personnes. Des écoles, les collèges, tout ça, ça crée des emplois, évidemment, de services, on va dire. Mais l'activité économique majeure, c'est quand même le tourisme.
Le CPIE, c'est une association installée depuis plus de 30 ans sur Belle-Île-en-Mer et qui est engagée dans l'éducation à l'environnement. Et l'une des thématiques phares, c'est l'accès à l'eau potable.
Donc on fait de l'éducation à l'environnement qui se décline avec tous les publics tout au long de l'année, scolaires, personnes âgées, personnes handicapées, professionnels de tous les secteurs. À Belle-Île, du fait de l'histoire et des différentes pénuries qu'on a eues sur l'île, on a déjà une consommation qui est très raisonnable. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de marge de progrès, en particulier avec des visiteurs qui n'ont pas les informations sur l'approvisionnement. Donc c'est pour ça qu'en été, notre public prioritaire, c'est les visiteurs, et que pour ça, on va sur le marché avec des chevalets comme ça. Bon, là, celui-là, il n'est pas en forme, mais on va le retaper. On a des stands de sensibilisation où on explique aux gens comment on est approvisionné en eau. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on a du dessalement ou un tuyau sous-marin, comme à Oléron, par exemple. Donc nous, on remet bien les choses au clair. On donne le même niveau d'information à tout le monde pour que, de façon induite, les gens adoptent des bonnes habitudes, des bonnes pratiques pendant leurs vacances.
On retourne vers le port, c'est la route vers la mairie, un bâtiment en plein travaux où l'on rentre juste avant la pause de midi.
Bonjour.
Thibaut Grolmund, je suis maire de Le Palais, à Belle-Île-en-Mer.
C'est quelle impression visuelle l'arrivée des touristes? Les rues sont encore plus remplies, l'activité est encore plus forte que là.
Faut imaginer, là on est sur la commune de Palais, on est 2600 habitants, hein, sur l'ensemble de l'île à peu près 5005. Faut imaginer vraiment que la ville de Palais se transforme le matin en petite ville moyenne de 40 000 habitants.
Comment est-ce qu'on gère l'afflux touristique au niveau de la consommation d'eau?
Alors, c'est vraiment la problématique. On y travaille toute l'année. Il faut imaginer que la consommation moyenne d'un Bellilois est à peu près de 90 litres par jour. Quand sur le continent ou la moyenne nationale, on doit être au-delà. Je crois que dans le Morbihan ou en Bretagne, on doit être à 130. Donc on a une consommation déjà, il y a une prise de conscience que l'eau est un élément fragile et rare. Parce que si on n'a pas d'eau à Belle-Île, s'il ne pleut pas ou qu'on a des réserves vides, bah là on arrive vite à des problématiques qui vont nous dépasser. Donc c'est pour ça que nous, en fait, il y a le côté positif. C'est s'il pleut bien en hiver, on remplit, on arrive à faire la boucle. Par contre, s'il pleut peu en hiver et qu'on a un printemps plutôt sec, là, ça devient vite catastrophique. Là, on n'est pas dans cette problématique-là. Par contre, on communique beaucoup avec Eau du Morbihan sur les économies d'eau. Donc, il y a des stickers dans les hôtels, il y a des éductours, etc. Et puis, bah, quand il faut, des fois, on baisse un petit peu la pression pour diminuer et préserver les ressources.
Thibaut Grolmont est aussi vice-président d'Eau du Morbihan, le syndicat départemental de l'eau, qui est aussi le responsable de sa gestion sur l'île. En 2015, c'est ce syndicat qui a ouvert la nouvelle usine d'eau potable de Belle-Île-en-Mer.
Aujourd'hui, on est un peu une Rolls-Royce du traitement de l'eau potable, ce qui nous permet de mieux traiter l'eau et de traiter aussi une eau, par exemple en fin de barrage, qui est plus compliquée à traiter parce qu'elle est avec des sédiments ou ce genre de choses. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant avec l'ancienne usine, aujourd'hui on arrive à traiter une eau même plus compliquée.
On quitte le palais en vélo pour monter une série de côtes qui nous amène au centre de l'île. C'est ici, au-dessus du barrage d'Entoureau, que se trouve l'usine de production d'eau. C'est là qu'on la traite pour qu'elle devienne potable. Et on arrive presque en même temps que notre guide du jour.
Je m'appelle Cyril Valade, du coup. J'ai commencé à la SOR en 2019. Et du coup, je suis en charge de tout ce qui va concerner la production d'eau potable et la gestion des ressources.
Et donc là, le lieu où on est, comment ça s'appelle et qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, c'est l'usine d'eau potable d'Entoureau. C'est une usine qui date de 2015, qui a été mise en service en 2015. Donc c'est ici qu'on reçoit toutes les eaux brutes qu'on pompe sur les trois retenues et qu'on va après traiter donc, de l'eau brute jusqu'à la sortie de l'usine en eau traitée chlorée et qu'on va envoyer sur les deux réserves qui sont juste à côté. L'ancienne usine était à Bordia, elle commence à arriver en fin de vie, donc ils ont mis en place ce nouveau projet-là. Mais là, on est sur une moyenne de rendement à 92 ou 93%. C'est-à-dire que 93% de l'eau qu'on pompe est transformée en eau potable.
Est-ce que les 93%, ils arrivent tous jusqu'aux maisons?
Ce serait magique, mais il y a toujours un pourcentage, je pense, de pertes. Potentiellement dans les réserves, l'évaporation ne doit pas être énorme, mais on en a sans doute peut-être un peu. Et après, on a forcément un petit pourcentage de fuite sur les conduites qui sont réparées, suivies toute l'année, avec des plans de renouvellement, avec des recherches de fuite.
Sur Belle-Île-en-Mer, la gestion de l'eau, c'est la compétence d'Eau du Morbihan, mais sur le terrain, c'est le sous-traitant privé, la Société d'aménagement urbain et rural, la SOR, qui s'en occupe. La SOR, c'est une multinationale française spécialisée dans la gestion de l'eau et les trois barrages de l'île sont donc sous leur surveillance, comme celui d'Entoureau vers lequel on se dirige.
Alors là, on va se trouver donc sur la commune de Palais, quasiment au centre de l'île. Et en termes de volume, il est deux fois plus petit que Borflot. Parce qu'il faut savoir qu'en tout, la globalité des trois réserves, ça nous fait à peu près une année et demie de fonctionnement. Donc déjà, avec les 220 000 m3 d'Entoureau, on fait déjà une bonne partie de l'année. Et en gros, 220 000 m3 d'eau qu'on peut pomper pour renvoyer à la station. Donc là, ce qu'on voit, tout le système sur la tour, en fait, c'est ça qui va pomper l'eau. Toutes nos installations en eau potable, en fait, elles sont faites justement pour combler, on va dire, cette différence. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a des réserves plus importantes qu'une année de fonctionnement, on va dire, classique. Sur l'usine, c'est pareil. On va dire, en plein hiver, quand il y a le moins de monde, on va envoyer par jour entre 700 et 800 m3 en journée. En été, moi, j'ai déjà vu des journées de distribution où on est à 4000 m3. Et après, nous, le gros défi, c'est comme je disais, c'est le changement de population. C'est le fait de passer de quasiment d'une population de 5000 à 50 000 qui fait que qu'on doit être vigilant effectivement sur ce qu'on a en quantité d'eau et sur ce qu'on transforme et sur ce qu'on est capable d'envoyer, quoi.
Économiser l'eau, c'est ce que Céline Marie du CPIE essaye d'apprendre aux touristes. Cette tâche a été facilitée en 2022 lors de la dernière sécheresse nationale.
Quand on a eu des restrictions d'eau, une année particulièrement chaude, conditions climatiques un peu hors normes, j'ai senti quand même auprès des gens, et en particulier des visiteurs, une prise de conscience indéniable. C'était clair et net que les gens se préoccupaient, est-ce qu'on avait assez d'eau pour passer la saison, etc., etc. Qui a vite été oublié en 2023. Et là, 2024, ça a été encore pire, avec tout ce qui pleut depuis des mois. Je vais avoir beaucoup de mal à faire passer les messages de consommation raisonnable, tout ça.
Pour pallier aux problèmes liés à la surconsommation estivale, Thibaut Grolemonde, le maire de Palais, envisage plusieurs solutions.
Donc on pourrait imaginer rehausser un des barrages, donc pas en construire un nouveau, mais en rehausser un. C'est quelque chose qui sera peut-être à terme imaginable. En tout cas, il y aura sans doute une étude qui sera faite sur le rehaussement d'un des barrages. On pourrait gagner facilement 100 à 150 000 m3, ce qui équivaut au petit barrage de Bordia. Chaque goutte compte, c'est ce qu'on dit à Belle-Île. Donc là, pour le coup, ça serait plutôt pas mal.
L'autre possibilité, ce serait aussi de s'inspirer d'autres îles, avec par exemple l'installation de citernes de récupération d'eau de pluie.
On fait beaucoup de promotions sur la récupération d'eau de pluie, en particulier depuis 2022. Et c'est vrai que là, du coup, le parallèle ou la comparaison avec d'autres îles du Ponant, je pense notamment à Molène, que j'ai eu la chance d'aller visiter il y a quelques mois, où quasiment toutes les maisons sont équipées de cuves d'eau de pluie. Ça se voit d'ailleurs, elles sont toutes en extérieur. Donc ici, moi je bataille et je dis aux gens, mais mettez-moi des cuves, mettez-moi même une poubelle de 100 litres, c'est ça, toujours ça de prix pour rincer les combis ou voilà tous ces usages-là qui n'ont pas besoin d'eau potable. Si on doit faire le lien avec, par exemple, la politique du logement à Belle-Île, on a quand même deux PLU qui ont été votés récemment et qui n'imposent pas ou ne recommandent pas la pose de cuves d'eau de pluie pour toute nouvelle construction.
Le dernier PLU ou plan local d'urbanisme a été fait sur l'île en 2023.
Vous faites des fondations, donc il y a le tractopelle qui vient, il fait les fondations de la maison, il en a pour une demi-heure, une heure, allez, à faire un trou supplémentaire pour venir poser une cuve. Ça coûte, oui, 2000, 2005, 3000 avec les filtres, si vous mettez des filtres. Il n'y a pas d'aide financière. En ce moment, vous avez remarqué, il y a quand même quelques constructions sur Belle-Île. Vu le contexte environnemental, je pense que ça devrait être imposé.
Bah, tout à fait. Alors nous, on a les outils pour passer la seconde si on veut. Il faut que c'est une décision politique. Après, comme je vous le disais, le point de vigilance, c'est le surcoût déjà. Pour un insulaire, c'est compliqué de construire sa maison. Donc là, on rajoute une somme. Quand déjà tout est juste et le budget est difficile à boucler, c'est toute la question, elle est financière évidemment. Donc elle se posera, mais elle se posera en 2024-2025. Ce sera pas très long.
Nous, notre système y tient à l'heure actuelle. On est à 500 000 m3 d'eau produite par an, on a un stockage de 835 000, on a une petite marge de manœuvre, tout va bien. avec la fréquentation touristique actuelle. Et bien sûr qu'à Belle-Île, on a un approvisionnement qui est particulier, qui est dépendant exclusivement de la pluie, donc très aléatoire par rapport aux conditions climatiques. Donc on met l'accent là-dessus, mais évidemment que quand on quitte les gens, on espère qu'ils adoptent les mêmes habitudes quand ils vont repartir dans leur région parisienne ou je ne sais où, ou Louk ou Laflot. La ressource en eau en France et partout dans le monde, c'est un sujet qui va exploser, si ce n'est pas déjà le cas. Au niveau climatique, on voit déjà des migrations de population internes en métropole où les gens du Sud viennent vivre en Bretagne ou au Grand Ouest. Nous, on n'a pas de l'eau en Bretagne comme il peut y en avoir dans le bassin parisien ou à Strasbourg. Quand il va moins pleuvoir ou quand il va pleuvoir pareil, mais sur des temps beaucoup plus courts et qu'il va falloir changer nos équipements, nos installations, si modernes soient-elles, ça se trouve, ne seront pas adaptées à une pluviométrie concentrée sur 3 mois. Donc, plutôt que de subir ça, adoptons maintenant, dès maintenant, les bonnes habitudes, quoi.
C'était le 4e épisode de La Mer à boire, la série sur la précarité d'accès à l'eau potable dans les îles bretonnes, réalisée par Eflam Siono, Bleuen Lelay et Louis Grignard. Supervision, Olivier Trédan, Philippe Gestin et Aurélie Fontaine. Accompagnement, Benjamin Mathieu. Musique et de mixage, Victor Blanchard. Dans le prochain épisode, Édic, quand le sel menace les nappes phréatiques.